Toujours dans le cadre de nos dossiers d'été, donc à chaque semaine, on s'intéresse à des thématiques, à des problématiques, à des situations dont on fait souvent état, mais auxquelles on s'attarde trop peu souvent. Donc, prendre le temps de voir les tenants, les aboutissants, les fondements de différents dossiers. Il faut dire, les logements sociaux et communautaires sont en nombre insuffisant dans le reste de la province. C'est du moins ce que prétendent les différents intervenants qui militent en faveur de ce type d'habitation. Et donc, un dossier dont on entend régulièrement parler. Et pour en discuter avec nous, mais je suis en compagnie de Nicolas Lefebvre-Legault, qui lui est coordonnateur du comité populaire Saint-Jean-Baptiste, est avec nous donc pour nous en apprendre un peu plus sur le logement social. Nicolas Lefebvre-Legault, bonjour.
Bonjour.
Alors ben, on commence par la base. Un logement social et communautaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là?
Ben, d'abord, la première chose, c'est que c'est un logement qui n'est pas de propriété privée. C'est un logement donc qui n'est pas à but lucratif, qui est sorti du marché privé de l'habitation et qui donc existe pour loger des gens, non pas pour faire des sous à une corporation ou à un propriétaire immobilier ou à un propriétaire bailleur. Et donc c'est des logements à propriété collective. Ça peut être différentes formes de propriété parce qu'il y a différentes formes de logements sociaux. Il y a des logements publics qui sont en fait les HLM, surtout qui sont en général propriété de l'État, soit l'État québécois avec l'État fédéral, et de gestion municipale. Donc ça, c'est vraiment des logements étatiques, disons-le. Il y a des OSBL d'habitation qui sont possédés par des organismes sans but lucratif. En général, issus du milieu, c'est souvent un groupe communautaire qui va créer un OSBL d'habitation. Les OSBL d'habitation sont en général pour permettre au groupe en question de remplir un volet de sa mission. Puis là, dans le jargon bureaucratique de l'État, on va souvent parler de logements destinés à des clientèles spécifiques. Alors, mettons, je sais pas moi, un groupe en santé mentale qui va mettre sur pied une habitation et qui va avoir en fait des logements avec un soutien communautaire. Ça peut être aussi un groupe de femmes, une résidence pour femmes battues. Ça peut être toutes sortes de choses, ou ça peut être juste un OSBL, parce que c'est ça, en général, l'OSBL, il est comme co-géré entre... Les locataires ont leur mot à dire, mais il y a aussi un groupe communautaire, des intervenants du milieu qui sont là, puis en général, il y a un soutien communautaire. Et finalement, il y a les coopératives d'habitation, où là, c'est une propriété sociale, c'est la coopérative, en fait, qui est propriétaire des logements, et les gens se retrouvent à être à la fois locataires et, en quelque sorte, copropriétaires, en fait, puisqu'ils sont membres de la coopérative. Mais c'est sur la base d'une personne, un vote. Donc, c'est les trois formes de logement social qui existent. C'est aussi des logements qui, en général, sont pas chers parce qu'ils sont subventionnés. C'est-à-dire que c'est pas tous les logements qui sont... c'est tous les logements qui sont subventionnés. C'est pas tous les loyers qui sont subventionnés, mais en général, pour parler de logement social, on parle de logements où il y a une subvention de l'État qui fait en sorte que les loyers sont fixés en fonction des revenus. Au Québec, c'est 25% du revenu des locataires. C'est le cas dans les HLM, c'est le cas dans la plupart des OSBL et dans beaucoup de coops, pas toutes les coops, parce que dans les coops, il y a une forme de mixité sociale. Il y a deux types de loyers. Il y a les loyers qui sont subventionnés par l'État et il y a les loyers qui sont un peu en bas du prix du marché.
Et pour encadrer tout ça, est-ce qu'il y a une législation?
Mais en fait, il y a plusieurs législations. Ça dépend. Il y a des politiques gouvernementales, les programmes de développement de logements sociaux, en général, les groupes signent, pas en général, ils signent toujours finalement un protocole d'entente. Puis s'ils respectent ça, ils ont la subvention. S'ils ne respectent pas, ils n'ont pas la subvention. Sinon, t'as la loi sur les coopératives qui joue pour les coopératives d'habitation. T'as la même chose pour les OSBL. Et finalement, t'as pour les HLM un ensemble de règles qui font ça. Mais tu sais, c'est pas une législation unique sur le logement. Il y a pas au Québec de législation provinciale sur le logement. Il y a tout plein de trucs qui entourent le logement. Il y a un code du bâtiment, mais il y a pas de code du logement provincial. Par exemple, il y a rien au niveau provincial. C'est toujours des municipalités. Et même au Québec, la plupart des municipalités ont pas de code du logement. Québec en a une, Montréal en a une, mais en dehors de ça, il y en a peut-être 5-6 qui en ont.
Est-ce que ça devient difficile un peu de se retrouver un peu là-dedans, comme il y a pas une législation centrale?
Oui et non. Ça dépend. Il y a comme eu tellement de programmes au travers des années. À un moment donné, on devient un peu spécialiste de ça. Mais en gros, là, historiquement, la majorité des logements sociaux au Québec ont été financés, la majeure partie par le fédéral, avec de l'aide du provincial. Et du municipal, c'est souvent tripartite. Et en gros, d'habitude, le principal bailleur, c'est le fédéral, le provincial est propriétaire, puis la municipalité gère. La municipalité ou le groupe local de la coop ou quoi que ce soit. Quand on parle de logements sociaux, là, on dit que c'est à peu près 10% là, du parc de logements locatifs. Et c'est évident que, tu sais, les. les locataires sont et les propriétaires sont pas répartis également sur le territoire. Le Québec est une est depuis peu une nation de propriétaires à courte majorité, alors que ça a été longtemps une nation de locataires. Et c'est sûr que les locataires sont concentrés dans les villes, donc t'as 10% sur tout le territoire, mais t'as plus que ça dans les villes. Et si on prend le territoire là, de l'ancienne ville de Québec, les quartiers centraux, c'est plus de l'ordre de 15%.
Et le concept du logement social, est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'histoire récente ou ça existe depuis quand même relativement longtemps?
Ben en fait, c'est un concept qui nous vient d'Europe, qui existe depuis longtemps là-bas, c'est avec la montée des mouvements sociodémocrates. En Amérique du Nord, c'est un peu plus récent, et au Québec, c'est franchement plus récent. Les premiers logements sociaux datent de 1968-69. En Ontario, c'est plus vieux que ça. Là, c'est le gouvernement fédéral, comme pour beaucoup d'autres programmes sociaux, en fait, le gouvernement fédéral a débloqué des fonds après la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement de l'Ontario n'a pris pas de problème. Le gouvernement d'Alberta et tout. Le gouvernement de Maurice Duplessis voulait pas que Ottawa s'ingère dans un champ de compétences provinciales. Et donc au Québec, on a un retard là, de 10-15 ans sur la construction d'HLM par rapport au reste du Canada. Et donc, on a une proportion moins importante. Mais il y a quand même 65 000 HLM, là. Mais en fait, pas 65 000. Très exactement, 62 884. qui ont été construits au Québec entre 1968 et 1994. Et donc ça, c'était les logements. Là, c'était la première forme de logement social, c'était vraiment une forme étatique avec une gestion assez lourde, paternaliste. Puis après ça, dans les années 70, les gens ont dit « Ben, nous autres, on voudrait le logement là, sur lequel on aurait notre mot à dire. » Tu sais, puis qui serait intégré dans nos quartiers, qui nous permettrait, tu sais, en fait, qui permettrait une meilleure appréhension du milieu, qui respecterait la trame urbaine et tout. Puis c'est là qu'ils se sont développés les coopératives d'habitation. Dans la région de Québec, c'est dans Saint-Jean-Baptiste et dans Saint-Roch que ça s'est développé en premier. C'est de là que c'est venu, puis après ça a rayonné là, sur l'ensemble du territoire. Pendant longtemps, à Québec, on a concentré la construction de logements sociaux dans les quartiers centraux, en considérant que Vanier et le Haut-de-Limoilou sont des quartiers centraux, mais bon, pour la ville de Québec, là, c'était vraiment, c'est dans les quartiers populaires, on va faire du logement social. Ailleurs, on va développer le modèle de banlieue.
Et dans tout ça, ben, on rappelle Nicolas Lefebvre-Legault, donc il y a des HLM, il y a des coopératives, il y a des OSBL d'habitation. Mm-hmm. Donc on parle de qui peut faire cette demande-là. J'imagine que dans les trois catégories de logement social, c'est trois types de demandeurs distincts.
Oui, oui et non. En fait, c'est sûr que le profil... l'immense majorité des demandeurs, en fait, ont des besoins qui sont surtout... ben, il y a deux grands besoins là. Il y a le besoin économique, les gens ils payent trop cher pour se loger. À Québec là, c'est 36-37% là des ménages locataires qui consacrent plus que la norme gouvernementale, là, qui d'après le gouvernement fédéral ont un besoin impérieux de logement en fonction du pourcentage de leurs revenus qu'ils consacrent au logement. Donc il y a ça, puis il y a la question de la salubrité. T'as peut-être dans le centre-ville de Québec là, c'est autour de 10% des logements là qui nécessiteraient des réparations majeures. Et les gens, bien évidemment, ces logements là, c'est les logements qui aux personnes qui ont le moins de sous, parce que les taudis sont... bon, les gens, ils veulent du logement social parce qu'ils vivent dans un taudis puis parce qu'ils ont pas assez de sous pour payer un logement décent. Puis la seule manière d'avoir accès à un logement décent, c'est du logement social. Ceci dit, dans les HLM, il faut vraiment, vraiment, vraiment être à faible revenu. Puis en fait, ils s'en construisent plus depuis 1994. Il y en a peut-être... alors je veux pas dire de conneries, je me souviens plus exactement combien il y en a à Québec, mais ils s'en construisent plus depuis 10 ans. Les listes d'attente sont relativement longues à la grandeur de la province. Et donc, c'est sûr que quelqu'un qui rentre dans un HLM aujourd'hui, c'est parce que il est à l'aide sociale. Mmh. Ou il est réfugié, ou il est retraité à très très tôt avec le plus bas. Là.
Oh oui.
Finalement, donc, il faut être très pauvre pour rentrer dans un HLM aujourd'hui. Dans les coopératives d'habitation, ben là, les nouvelles coopératives d'habitation, t'as deux types de logements. T'as les logements qui sont au prix du marché. Puis là, ben là, c'est faut avoir un besoin de logement, évidemment. Mais il faut avoir une envie de s'impliquer et tout. Mais, tu sais, bon, ça s'adresse un peu à tout le monde. Là. C'est, je dirais, à moins d'être très riche, ça va. Puis t'as des logements subventionnés où encore là, il faut être un ménage à faible revenu qui a un besoin impérieux de logement. Puis dans les OSBL, ben là, t'as deux types d'OSBL. T'as des OSBL qui s'adressent vraiment à tout le monde, mais beaucoup, 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 je te dirais, les OSBL d'habitation qui se construisent aujourd'hui, c'est très clairement pour répondre à des besoins particuliers. Et en général, c'est pour répondre à des besoins pour des gens dont le logement n'est pas nécessairement le seul ou même le principal problème. Et donc, à ce moment-là, c'est chacun son... comme par exemple, nous, on est domiciliés dans le presbytère l'ancien presbytère de l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est maintenant un OSBL d'habitation. Il y a des y a des bureaux là au rez-de-chaussée, mais tout le reste c'est du logement social. C'est un OSBL d'habitation qui appartient à l'Aubrivière. C'est la société immobilière de l'Aubrivière qui le fait. Or, évidemment, on se doute bien que l'Aubrivière, pourquoi elle a fait un OSBL d'habitation? C'est pour répondre à des besoins précis, qui sont des besoins, en fait, des gens qui sont dans un processus là, de sortie de l'itinérance, puis qui ont besoin d'un logement stable pour une période donnée, le temps d'études, le temps de se replacer, de se trouver un job, puis tout.
Et donc, dans ce cas-là, autant de types, autant de types de demandeurs, ouais, autant de types de processus de demande aussi, on l'imagine. Oui. Côté HLM, c'est probablement plus gouvernemental. Côté coopérative, ouais, c'est à la pièce?
Ben oui. Dans le cas des HLM, tu vois, il y a un règlement provincial d'attribution. Les gens sont toujours un peu mêlés par rapport au HLM dans la mesure où c'est pas tu mets ton nom puis quand c'est rendu à toi, c'est à ton tour, là. C'est-à-dire que c'est un règlement qui est pondéré. C'est pas en fonction de l'ancienneté, c'est en fonction du besoin. Puis réévalue le besoin à tous les X temps. Et donc, c'est... Il y a des désavantages au HLM, mais il y a un avantage certain, c'est que dans le cas du HLM, il n'y a pas de népotisme, il n'y a pas de favoritisme, et il n'y a pas de « tu connais la bonne personne », et voilà, c'est vraiment en fonction du besoin, puis là, à ce moment-là, des gens qui sont pas nécessairement qui ont pas nécessairement la meilleure diplomatie ou les habiletés sociales pour séduire un jury de sélection, par exemple, vont y avoir accès, puis ça va être vraiment en fonction de leurs besoins. Et donc, ce qu'il faut faire dans le cas des HLM, c'est qu'il faut tout simplement appeler ou se rendre à l'Office municipal d'habitation pour déposer une demande, puis il faut la renouveler chaque année, puis là, normalement, l'office vous suit. Si vous avez des gros besoins, ça peut aller vite, mais quand même, on s'entend, là, la liste d'attente est longue, là, puis ça peut prendre quelques années. Alors, à Québec, c'est le 418-780-5211 pour faire une demande de logement à l'Office municipal d'habitation. Et donc, c'est ça. Ça, c'est pour les HLM. Il y en a quand même plusieurs, puis il y en a qui se libèrent, mais tu sais, c'est relativement long. Puis si vous êtes juste un pauvre ordinaire, ça peut être un peu plus long. Là. Il faut vivre dans quelque chose qui n'a pas de bon sens, vraiment pas avoir de revenus. Mais ça vaut la peine de faire la demande. Sinon, pour les coopératives d'habitation, là, c'est un peu plus compliqué parce que chaque coopérative est autonome. C'est des entités autonomes, c'est comme les caisses populaires, mettons. Et puis là, ben là, il faudrait faire comme appel à chacune, mais heureusement, il existe une fédération des coopératives d'habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, et où là, il y a des sessions de formation d'information sur qu'est-ce que les coopératives d'habitation, parce que c'est un type de logement particulier, là. Il s'agit pas juste d'avoir un bail puis de louer, là. Pour que le logement soit pas cher, il y a aussi une partie de la job qui est faite par les locataires, là, les corvées, tout ça.
Faut s'impliquer, faut le faire implicitement.
Oui, c'est ça, faut s'impliquer. Donc, ça implique certaines choses. Mais bon, la fédération, elle tient une liste, puis elle fait des assemblées d'information, puis il est possible de s'inscrire via la fédération. Alors, je vous invite tout simplement à leur téléphoner. C'est le 418-648-1354. Évidemment, on peut faire des demandes sur chacune. Puis, ils ont un site web, là, si vous cherchez Fédération des coopératives d'habitation Québec Chaudière-Appalaches, dans Google, vous risquez de le trouver. Donc, voilà pour ça. Et les OSBL, ben là, c'est ça, c'est d'être en lien avec un des organismes communautaires concernés. Il y a quand même une fédération, là, mais dont c'est con, j'ai pas le numéro de téléphone.
Et face à tout ça, oui, présence de logements sociaux, il y en a à Québec, il y en a au Québec.
Oui.
Pour les organismes qui œuvrent dans ce domaine-là, qui militent pour le logement social, il y a un manque aussi à gagner,
oui,
qui est important.
Oui, il y a un manque qui est important. Puis je vais juste te sortir un chiffre pour l'illustrer. Nous, ça nous a choqués. On fait chaque 5 ans, quand on a les données du recensement, on sort les chiffres, puis on fait un dossier noir du logement et de la pauvreté. Puis dans Saint-Jean-Baptiste, cette année en 2006, on s'est rendu compte de quelque chose qui est... Ben, c'est frappant, là, parce que c'est tellement proche. Là. T'as 525, c'est le nombre de ménages du quartier Saint-Jean-Baptiste qui consacrent plus de 80% de leurs revenus pour se loger. Donc, il y a 525 ménages qui consacrent plus de 80% de leurs revenus pour se loger. 534, c'est le nombre de logements dans les coopératives du quartier. Donc, tu vois, il y a autant de monde qui ont un besoin, là, 80%, t'as un besoin énorme, là, de logement. Et les logements dans Saint-Jean-Baptiste, on voit être un peu plus chers qu'ailleurs. Reste que si tu payes 80% dans Saint-Jean-Baptiste, si tu descends en Basse-Ville, tu vas peut-être payer 70% de ton revenu, mais t'arriveras pas à une situation où ça va être bien. Donc, c'est ça, c'est comme, il y a autant de monde qui en ont besoin, mais de façon grave, ou dure, ou en tout cas, ou élevée, que de logements disponibles. C'est sûr, nous, notre revendication, elle est simple, là, c'est de doubler le nombre de logements sociaux. Pas dans la prochaine année, mais à terme qu'il faudrait que le gouvernement du Québec se donne comme objectif de doubler et de passer de 10 à 20%. Puis même à 20%, on répondrait pas nécessairement à tous les besoins, sauf que on ferait assez de place pour permettre au monde d'attendre. Puis parce que là ça fait 5, 6, 7 ans là, que les propriétaires ont le gros bout du bâton, les loyers augmentent trop vite, les revenus augmentent pas assez vite. Puis là, on se retrouve dans une situation où les locataires, c'est les locataires qui restent pris sur le marché privé, c'est ceux qui ont le moins de facilité à se défendre dans ce marché-là. Donc, il faut vraiment qu'on se donne une politique, qu'on se dise, notre objectif, que ce soit un ou deux mandats, mais notre objectif, c'est de doubler le nombre de logements sociaux pour faire une différence, puis arriver dans une situation où, finalement, au Québec, le logement, ce soit plus un cauchemar.
Mais il faut dire aussi qu'en parallèle, il y a beaucoup d'idées qu'on a ou que des gens vont avoir par rapport au logement social. Peut-être plus au HLM, si on regarde justement, on a essayé de sortir quelques regards là-dessus. Oui. On parlait notamment de logements qui dérangent la tranquillité d'un quartier, qui brisent le paysage urbain, qui sont bruyants, qui sont insalubres, qui attirent une clientèle indésirable, voire criminalisée. Quel regard on porte? Qu'est-ce qu'on dirait aux gens qui ont cette impression-là?
Mais ça, on paye pour les erreurs du passé. C'est particulièrement flagrant au Québec. C'est moins pire à Montréal ou dans d'autres villes. Là. Mais à Québec, là, tu sais, quand il y a eu la rénovation urbaine des années 60-70, ils ont fait des HLM pour reloger le monde. Puis ils ont fait une coupe de grandes tours. Les premiers projets de HLM, c'est Place Bardi, c'est dans Saint-Roch. Et c'est des gros complexes, là. Ça ressemble un peu, là, à l'architecture stalinienne, là. Et ça, c'est vrai. Ça existe. C'est des grandes tours. Sauf que, après, très rapidement, suite aux batailles des comités de citoyens, des groupes populaires, l'État a reculé sur cette question-là, puis a arrêté de faire ça. Et je te dirais qu'aujourd'hui, c'est bien particulier. C'est la majorité des locataires d'HLM vivent dans des petits HLM. La majorité des HLM qui ont été construits pendant tout le temps où le programme est excellent, la moyenne, c'est 40 unités. Ça fait une grosse coop, ça. Tu sais, c'est 3-4 blocs. Puis il y a plein de des affaires, là. Je veux dire, en face de l'hôpital général de Québec, là, à la lisière entre Saint-Roch et Saint-Sauveur, il y a une ancienne manufacture, c'est superbe, mais c'est un chemin de personnes âgées. Il y a, dans Saint-Roch, là, pas loin de la rivière, t'as toute une série d'HLM qui sont mêlés aux condos, tu sais pas en tout que c'est des HLM.
Donc l'idée, c'est d'un peu de les intégrer dans le
paysage. Ouais, mais nous, on veut des HLM qui s'intègrent dans les quartiers, puis qui font pas plus que 4 étages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de HLM. T'as des HLM pour personnes âgées, puis t'as des HLM pour famille. Et c'est sûr que les HLM pour personnes âgées, il faut mettre un ascenseur. Donc, normalement, à partir du moment où tu mets un ascenseur, ça change le gabarit. Mais il y a moyen de faire de quoi de beau. Et l'OMH de Montréal, l'Office municipal d'habitation de Montréal, qui gère les HLM, a gagné le prix d'architecture l'an passé pour un projet de logement abordable pour personnes âgées. Donc, c'est possible. Faut juste se sortir de la mentalité que c'est pour les pauvres, faut que ce soit l'être. À partir du moment où est-ce qu'on décide qu'on va faire des logements de qualité, là, on peut faire des choses vraiment intéressantes. OK, ça. Puis sur la question de l'insalubrité, c'est vrai, le propriétaire, en l'occurrence, l'État québécois, a été mais particulièrement négligent parce que c'était des pauvres qui étaient là-dedans, parce que supposément que ça coûtait cher, parce qu'il fallait, tu sais, on est populiste, fait que bon, hein, on va pas leur donner d'argent à ce monde-là, déjà qu'on les aide, qu'on leur paye leur loyer et tout. Et résultat, ils s'est trouvé avec des logements qui se sont dégradés. Parce qu'il y a 30 ans, quand ils ont construit des HLM, ils ont construit des HLM avec des matériaux cheap, puis là, aujourd'hui, ils sont pris avec des logements qui se dégradent. Parce qu'évidemment, un bloc qui a 30-40 ans puis qui a été construit pour en toffer 25, tu sais, c'est sûr qu'il y a de la difficulté. Sauf que, heureusement, on va s'en sortir de ça parce que le gouvernement du Québec et maintenant le gouvernement d'Ottawa, ça c'est particulier, ont mis de l'argent sur la table dans le cadre de la lutte à la crise économique. Il y a une partie du budget, tu sais, on nous parle, on a dit 2 milliards pour les infrastructures. Donc, quand on parle des infrastructures, on se dit tout le temps les routes, les ponts. Ben, c'est aussi les infrastructures pour l'État québécois, c'est aussi les écoles primaires, c'est aussi les HLM. Puis tu sais, Dieu sait là, que les écoles au Québec, on n'a pas fait attention, puis il y en a qui sont en sale état. C'est la même chose pour les HLM. Et là, actuellement, ben, il y a des chantiers. Puis, ben, en ce moment, dans les OMH, les locataires sont en train de voir à prioriser qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Donc, ça aussi, ça va se régler.
Et en même temps, une autre question, un autre aspect qui revient aussi, c'est de voir un peu ça comme une dépense. On dit, ben regardez, pourquoi on construit des logements sociaux? On pense, par exemple, à l'îlot Berthelot, qui est dans un terrain qui est absolument superbe. Les gens disent, ben faudrait construire un hôtel, faudrait construire des condos, ça génère plus de taxes. Est-ce qu'on voit un peu trop l'idée du logement social comme une dépense, alors qu'il faudrait le voir comme un investissement?
Dans le cas de l'îlot Berthelot, on va s'entendre, là, si on avait construit des coops là, il y a 25 ans, au lieu d'attendre pendant 25 ans puis de dire, ah, on va faire des condos, ah, on va faire un hôtel, ah, on va faire des bureaux, ah, on va faire quelque chose qui va être payant. Mais pendant 25 ans, on aurait eu des rentrées de taxes à la Ville de Québec et ça aurait été autrement plus payant que d'attendre pendant ça. De toute façon, il y a personne qui était capable de développer ce terrain-là parce qu'il y a des contraintes vraiment pas évidentes. Et il y en a eu une roulotte de condos dessus pendant 2 ans, puis ils n'ont pas été capables de les vendre leurs condos. Donc, voilà. Et pour ce qui est de la dépense, c'est sûr que les propriétaires, ils disent « Oh, construire du logement social, ça nous fait compétition. Il faudrait donner des sous aux gens pour qu'ils... » Tu sais, il faut aider les gens, pas aider la brique. Ça, je suis pas d'accord parce que moi, je pense que si on fait juste donner des sous aux gens, là, c'est une dépense... Si on fait du logement social, c'est un investissement parce que quand la personne, quand le ménage va s'être sorti de son problème, le logement, il va rester. Tu sais, l'idée là, de dire là, que mieux vaut être si on est capable d'être propriétaire, mieux vaut être propriétaire que locataire, c'est vrai aussi pour l'État. Et tant qu'à ça, je crois que la collectivité, que ce soit via les HLM, via les coopératives d'habitation, au moins, il reste un actif après. Et cet actif-là peut servir à aider d'autres gens. Donc, mieux vaut, à ce moment-là, le logement social devient un investissement. Et moi, je suis convaincu que l'argent investi en logement social, c'est de l'argent qu'on économise et des sommes beaucoup plus importantes en santé et services sociaux.
Et peut-être le mot de la fin, Nicolas Lefebvre-Legault, oui. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça en quelques mots?
Que ça prend des logements. Ça prend des logements pour tout le monde. Puis le marché privé, ça marche pas. Puis ben, dans ce contexte-là, ben, ça prend du logement social pour les gens qui sont pas capables de trouver à se loger de façon adéquate et décente dans le marché privé.
Ben Nicolas Lefebvre-Legault, donc coordonnateur du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, merci.
Ben, avec plaisir.